Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins. L'école à la radio pour vous servir, les juniors en école primaire et les plus grands qui les aident mais qui ont parfois besoin de se remettre les idées au clair. Alors on termine la semaine avec l'enseignante Sarah Vauquier. Bonjour Sarah.
Bonjour Emmanuel.
Tout va bien chez vous ?
Ça va tout bien, oui, on a toujours du beau temps. Oui.
Ah, j'aime bien votre expression suisse, ça va tout bien, parce que vous êtes suisse-allemande.
C'est ça.
Et on aime bien avoir cette diversité d'expressions, surtout qu'hier on a parlé justement des expressions avec vous. Ça va tout bien, bah, chez nous aussi, ça va tout bien. Vous êtes la maîtresse de l'école en plein air. Toutes vos méthodes sont dans votre livre « L'école en plein air » aux éditions La Salamandre. Et vous nous proposez un programme de mathématiques aujourd'hui, Sarah ?
C'est ça, oui. On va trouver des suites logiques et puis créer des solides et peut-être aussi créer et travailler sur les sudoku.
Alors, il faut du matériel comme toujours, papier, crayon. Et hier, vous avez bien expliqué aux enfants, Sarah, qu'il fallait préparer pour aujourd'hui un sac ou une boîte avec 20 fois 6 petits objets dedans. Donc, normalement, les enfants, vous vous êtes levés à l'aube pour compter des petits tas.
Eh ben moi aussi d'ailleurs.
Hein. Ah c'est vrai, vous les avez préparés. Donc des grains
aussi
de.
Mon sac avec les objets. Et si jamais il y a des enfants qui n'ont pas eu le temps de le faire, c'est pas si grave que ça. Vous pouvez aussi dessiner ces objets avec votre crayon sous votre feuille aujourd'hui.
Ouais, moi c'est ce que j'ai fait parce que c'est vrai que les haricots, les petits cailloux dans le studio de RFI, ça aurait fait désordre. Exactement. Alors donc, en gros, il faut des choses différentes. Hein. Alors ça peut être du maïs, des haricots, des petits cailloux. Et il faut...
Oui, des noisettes. Ce que vous avez, de l'herbe.
De l'herbe aussi, oui, pourquoi pas, des brins d'herbe. Hein. 20 tas de 6. Donc ça fait oui. 120 petits objets. Et à la récréation, une histoire du jour, Les deux bosses, écrite par Jean-Jacques Vdida, qui est racontée par Héloïse Auria. Et puis enfin, il y aura des conseils pour les parents pour faire travailler leurs enfants avec la psychologue Joëlle Alarcon. Nous verrons quel est le lien entre apprentissage et émotion. Et chez nous, l'émission est réalisée en direct chaque jour avec une équipe en confinement et en studio. Delphine de Diano, Cécile Lavolo, Romain Dubrac, Hugo Violas. Et moi-même. Et bien sûr, on attend vos questions, vos commentaires, vos suggestions sur notre compte WhatsApp 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins.
On existe ensemble.
Et on a reçu beaucoup de messages sur les activités d'hier, notamment sur les proverbes avec vous, Sarah.
Bonjour Tata Emmanuel, je m'appelle Mpati Samuel, je suis élève en classe de CM2 à Palimé au Togo. Je suis ravie d'écouter les leçons de Sarah sur RFI. J'ai surtout aimé les proverbes. J'ai retenu un, je vais vous le lire. Dans la forêt, quand les branches se querellent, les racines s'embrassent. Ça veut dire que tout le monde, on a la même origine, même si on se querelle parfois. Au revoir.
Ouais, ici c'est Jérôme Kako Adjadou, depuis Togo. Donc mon proverbe, peu importe la colère de Dieu, les lions ne mangeront pas les herbes. Ça signifie que quoi ? Que peu importe notre souffrance, on ne mourra jamais dans la pauvreté et qu'on sortira toujours vainqueur. Merci à la, au public et aussi aux amis de 7 milliards de voisins et à plus.
Et merci à toi Jérôme, merci aussi à Mpati, 10 ans, notre petit voisin de CM2 qui est à Palimé, région des Plateaux, Togo, très belle région d'ailleurs. Peu importe la colère de Dieu, nous dit Jérôme, les lions ne mangeront pas les herbes. Et un peu dans le même genre, moi je connaissais, peu importe la direction du vent, le soleil va toujours où il doit aller. Vous connaissiez ces proverbes, Sarah ?
Non, en fait, le premier, bien sûr, parce qu'on en a travaillé dessus hier, mais les deux autres, non.
Ouais. Alors, on a d'autres messages qui arrivent aussi sur notre page Facebook. D'ailleurs, on arrive à 180 000 abonnés maintenant et 2500 sur Instagram. Merci à vous. Annie, qui est la maman de Lucas à Kinshasa, elle nous dit « Lucas aura de quoi raconter quand l'école en vrai va reprendre. Il m'a demandé où habitait Emmanuel. J'ai répondu à Paris. Il était un peu déçu. Il croyait qu'elle était ici en RDC, qu'il pourrait la voir après le confinement. Il aime beaucoup Sarah aussi, sa façon de parler, d'expliquer. On va avoir de sérieux problèmes dans la vie d'après. » Et aujourd'hui, il a encore trouvé le temps du compte trop court. Mais Lucas, alors aujourd'hui aussi, c'est vrai qu'on a un compte un petit peu court, mais lundi, tu auras un compte beaucoup plus long. Balzac est à Cotonou au Bénin. J'oblige mes deux nièces à suivre l'émission et après, je révise les cours avec elles et avec quelques enfants que j'encadre. Alors moi, peut-être j'aurais une suggestion, je ne sais pas ce que vous en pensez Sarah, mais peut-être c'est dommage d'obliger les enfants à suivre l'émission. Peut-être que vous pourriez, Balzac, bien préparer une table, des chaises, des crayons dans un endroit calme si possible, avec une petite récompense prévue après l'émission. Donc qu'est-ce qu'on pourrait suggérer à Balzac pour ne pas obliger les enfants à écouter l'émission? Parce que nous, quand même, ça, on se sent mal à l'aise, hein.
C'est un peu difficile parce que les enfants doivent quand même travailler ou faire les travaux de l'école à la maison. Mais bah, moi, j'essaye de faire les activités le plus appétissant possible pour que les enfants, ils ont plaisir de partager ça. Et puis peut-être, ça c'est plutôt un conseil de psychologue que je suis aussi, de leur expliquer pourquoi c'est important de faire l'école à la radio ou l'école à la maison.
Voilà, exactement. D'ailleurs, vous allez nous expliquer tout à l'heure à quoi servent les suites logiques, notamment. Hein. Je vous lis le message d'Armel aussi, ça c'est pour vous encore, Sarah. L'initiative qui engage les parents d'élèves à accompagner leur progéniture en a touché plus d'un dans le chapitre des triangles et des rectangles. Voilà, ils sont tous partis à la chasse aux figures géométriques dans la famille. Brice est à Yaoundé, il nous dit « Avec vous, je vais à l'école, même si je ne porte ni sac à dos, ni uniforme. » Comme c'est joli. Et vous, les enseignants, on aimerait bien aussi avoir vos suggestions, parce que c'est bien de croiser des manières de faire pour mieux comprendre une notion. Dites-nous comment vous faites avec vos élèves, surtout si vous enseignez en ce moment avec WhatsApp ou si vous faites des vidéos. Je sais qu'il y a aussi des enseignants absolument formidables qui font l'école à la télévision dans plusieurs pays et il paraît que ça marche très très bien. Voilà, on est tous collègues, tous ensemble, pour vraiment se mettre en quatre pour ces millions d'enfants qui n'ont plus d'école à l'heure actuelle. Je vous redonne notre compte WhatsApp 33 1 84 22 71 71.
Sept milliards de voisins.
L'école à la radio.
Allez, allez, on traîne avec les messages des auditeurs, mais c'est vrai que c'est bien sympa. Maintenant, on se met au travail, au boulot avec Sarah Vauquier. Suite logique, Sudoku, solide. Quels sont les objectifs un peu de votre programme, Sarah?
Mais avec les suites logiques, on va surtout travailler, et les sudoku aussi d'ailleurs, on va travailler sur des modèles arithmétiques, donc essayer de les représenter, de les modéliser et aussi de calculer, bien sûr. Pourquoi travailler sur des modèles arithmétiques? Oui. Alors surtout pour les professions de l'informatique, si vous voulez devenir programmateur ou programmateuse en informatique, vous travaillez toujours avec ces modèles arithmétiques. L'ordinateur, c'est des suites logiques de 0 et de 1.
Ah oui, alors il est temps de s'y mettre pour ceux qui ont des rêves d'informatique. On va commencer avec les 6-7 ans,
oui,
c'est ça Sarah?
C'est ça, exactement. Et puis ben voilà, il vous faudra votre sac ou votre boîte avec les objets dedans. Si vous n'avez pas eu le temps de collectionner ces 120 objets, prenez juste un crayon et une feuille et puis vous pouvez les dessiner au fur et à mesure que je vous explique l'exercice. Donc au début, nous on va faire ensemble des suites logiques. Moi, je vais le faire avec le matériel de mon sac. J'ai déjà préparé mes suites à côté de moi. D'ailleurs, j'ai presque plus de place sur ma table, tant qu'il y a d'objets. Et puis vous, avec le matériel dans votre sac ou bien avec votre feuille et votre crayon. Est-ce que vous êtes prêts?
Ah, moi, je suis prête. Je suis prête à dessiner les objets.
Alors, je sors de mon sac une noisette et je la mets sur la table. Et vous aussi, vous sortez un élément de votre sac que vous posez sur la table. Ou bien vous le dessinez, un seul élément dessiné sur la feuille ou mis sur la table. Je crois que vous avez eu le temps de le faire.
Oui.
Je continue. Je sors de mon sac 3 haricots. Et je les pose à côté de la noisette.
Alors, c'est, vous, il faut bien les aligner. Hein. Il faut bien les aligner pour qu'on voit bien d'un seul coup d'œil.
Il faut les aligner à côté de l'autre. Ouais. Une noisette, 3 haricots, et vous sortez aussi 3 éléments de votre sac ou dessinez les 3 haricots sur votre feuille.
Ça y est, moi bon. J'ai dessiné 3 petits ronds pour les haricots.
C'est ça. Alors, prochaine étape, je sors de mon sac 5 cailloux et je les pose à côté des 3 haricots. Vous aussi sortez 5 autres éléments de votre sac, posez-les à côté des 3 que vous avez mis ou dessinez-les.
Voilà, moi j'ai dessiné 5 croix et je les ai mis à côté des haricots, des 3 ronds.
Donc maintenant, c'est à vous de réfléchir comment on va continuer. Combien faut-il ensuite ? On a une noisette, 3 haricots, 5 cailloux. C'est quoi le prochain chiffre ?
1. 3, 5, 1. Eh bien, j'ai l'impression que vous sautez un chiffre à chaque fois, finalement, Sarah, non ?
C'est exactement ça. Hein. La formule magique pour cette suite logique, c'est il faut calculer toujours plus 2. Donc, le prochain chiffre, c'est
3,
évidemment...
5, et ensuite... C'est 7. 2,
c'est 7. Alors, 7 autres éléments que vous pouvez poser... à côté de vos 5 cailloux que vous avez dessinés ou que vous avez mis. Je crois que vous avez compris le principe. On pourrait continuer à l'infini, mais j'aimerais faire avec vous un autre exercice un peu plus complexe déjà. Donc, on va faire une autre suite logique. Vous pouvez commencer à un autre endroit, par terre ou sur votre table, en utilisant les mêmes éléments de votre sac.
Donc, ça veut dire que là, la première suite logique, on ajoutait toujours plus 2. Et
c'est
celle
ça.
Qu'on va commencer, ça sera un autre type de suite logique et ça sera
c'est ça, c'est ça une sera, autre suite.
Voilà, donc, et ça sera pas la même le même mécanisme.
Non, pas du tout. Hein. Et par contre, il faut utiliser vos cailloux, vos haricots, vos noisettes, ce que vous avez mis pour la prochaine suite.
Bon, donc, alors je commence, on enlève tout, on refait table rase.
On enlève tout, voilà. Exactement. Et puis on réutilise tout. J'ai commencé, je pose 5 cailloux sur ma table.
Cinq
Donc, vous pouvez
cailloux.
Aussi sortir 5 éléments et les poser devant vous. C'est
5
bon
cailloux sur la table où vous avez dessiné 5 petites croix.
Alors, j'enchaîne. Je mets 4 noisettes. Donc, vous aussi, vous allez poser 4 autres éléments à côté des cailloux, à côté des premiers que vous avez mis.
4 noisettes, 4 éléments. Sinon, vous faites une petite figure. Moi, je fais un rond barré, ce que vous voulez. Il faut bien que ça soit distinct des cailloux.
C'est ça. Ça, c'est très important. Alors, prochaine étape. Je mets maintenant 6 haricots à côté de mes noisettes. Donc, vous aussi, sortez 6 éléments, encore d'autres, de votre sac et mettez-les à côté.
6 haricots. Donc, on a bien 5 cailloux. 4 noisettes, 6 haricots, donc il faut retenir 5, 4, 6.
C'est ça, et on continue.
Qu'est-ce que vous allez nous dire maintenant ?
Maintenant, je mets 5 bâtons, quelque chose de nouveau, 5 bâtons à côté de mes haricots. Vous aussi, vous mettez 5, mais d'un autre élément que vous avez dans votre sac.
Alors, 5 bâtons, donc on est à 5, 4, 6, 5...
Voilà.
On a l'impression que ça
continue.
Repart. Ouais.
Maintenant, je pose 4 pommes de pin, j'ai dans mon sac. Et vous aussi, vous mettez 4 encore d'un autre élément que vous avez dans votre sac.
Donc, ça nous fait 5, 4, 6, 5, 4.
C'est ça. Et maintenant, qu'est-ce que vous mettez et combien ? Ça, c'est ma question à vous.
Alors, à la radio, hein, c'est presque finalement plus facile. Hein. 5, 4, 6, 5, 4.
Ha. Je crois que vous avez deviné le chiffre.
Eh bien oui, hein, ça marche bien à la radio.
De nouveau, ça,
ça
va être 6.
6, exactement.
Et ça va être 6 d'encore un autre élément. Hein. Ni les cailloux, ni les noisettes, pas les haricots, pas les bâtons, pas les pommes de pin, mais votre 6e élément que vous avez dedans, que vous pouvez maintenant mettre ou dessiner. 6. Hein. 6 éléments d'un nouveau objet que vous avez dans votre sac. Et je crois que vous avez deviné aussi la formule magique. C'est toujours
5, 4, 6. Vous vous appelez ça une formule magique, donc.
C'est la, la formule avec mes élèves, une formule magique.
C'est la formule de la suite logique, de cette suite c'est logique-là.
Ça. La logique qui est derrière la suite. Mm-hmm. Donc, ben, après l'émission, bien sûr, vous pouvez continuer à faire des suites logiques avec vos parents, vos frères et sœurs. Avec mes élèves, normalement, on travaille à deux. Donc, les deux commencent en même temps une suite. Chacun fait une suite pour l'autre. Et puis après, l'autre, il doit continuer cette suite. Mmh.
Et là, on a vu deux...
C'est la formule magique, bien
c'est
sûr.
C'est ça. Et il faut, effectivement, il faut déjà déterminer la formule magique. Hein. Là, oui. On a vu une formule à plus 2, une autre formule 5, 4, 6. Ça peut être absolument tout comme formule. Hein. Il y a des tout formules fait, très hein. compliquées.
Ça peut être un moins, un fois, une division, tout est possible.
Sarah, maintenant on va aborder, vous nous aviez promis qu'on allait faire des sudoku, alors les sudoku, enfin
oui,
moi je le prononce à la japonaise, mais en fait c'est pas japonais
du tout. Moi aussi d'ailleurs.
Oui. En fait ça a été inventé par un Américain.
Apparemment, oui.
Ouais. Alors en quoi ça consiste, pour ceux qui n'ont jamais fait de sudoku?
Le sudoku, en fait ça c'est une autre manière de faire des suites logiques, voilà. On va fabriquer un sudoku juste avec votre feuille de papier et votre crayon. Et puis maintenant, peut-être pour les 6-7 ans, c'est les parents qui peuvent aider ou peuvent dessiner. Il nous faut, sur votre feuille, un carré, un grand, avec 9 petits carrés dedans. Vous ne devrez pas faire ça avec une règle, juste à la main, comme ça. Un grand carré, et dans le grand carré, vous avez 9 petits carrés. Et ça, c'est notre grille de sudoku qu'on va dessiner.
Ça veut dire que vous faites, en fait, le carré, vous le divisez en 3, 3 cases en haut, 3 cases au milieu, 3 cases en bas. On va vous laisser quelques secondes pour le faire. Pas besoin d'une règle. Un carré avec 9 carrés dedans. Voilà, peut-être que les grands ont pu aider les plus petits pour tracer ce carré avec 9 carrés. Vous avez vérifié, oui. Vous avez compté, vous en avez bien 3 sur chaque ligne. Donc, ça fait 9.
C'est ça.
Et qu'est-ce qu'on fait ensuite avec ces cases?
Et maintenant, de nouveau, on a besoin de nos éléments du sac. Il nous faut 3 fois 3 éléments différents. Par exemple, je sors de mon sac 3 noisettes, 3 cailloux et 3 haricots. Mmh. Ça, c'est mes 9 éléments dont j'ai besoin pour ce sudoku à 9 carrés. Maintenant, posez un élément de chaque sorte dans la diagonale de votre sudoku. Et je vais vous expliquer comment on va faire. Alors, je prends une noisette et je la pose tout en bas à gauche. Maintenant, ben, je prends un caillou, je le mets dans la case tout au milieu de mon grand carré. Et je termine avec un haricot que je mets tout en haut à droite. Voilà. Ça, c'est la diagonale du sudoku.
Diagonale. Sinon, peut-être les grands frères ou les grandes sœurs peuvent donner un coup de main sur la diagonale. C'est pas
alors,
bon.
Oui.
Et donc, on a rempli ces 3 cases-là avec 3 choses différentes.
C'est ça. Maintenant, votre travail, ça serait de placer le reste de vos éléments que vous avez sortis. Mais attention, chaque sorte d'élément doit apparaître qu'une seule fois dans chaque ligne et dans chaque colonne.
Et donc, ça veut dire dans chaque ligne, dans chaque colonne, y compris donc les diagonales, hein?
Oui, pour le 3 sur 3, c'est ça. Mmh.
Et bien là, on va peut-être leur laisser du temps après l'émission pour le terminer.
Alors, ça, c'est l'idée. Ben maintenant, les 6-7 ans pour vous, c'est terminé, sauf si c'était beaucoup trop facile. Donc, vous continuez avec les 8-10 ans. Et sinon, vous pouvez vous exercer à faire des suites logiques et des sudoku pendant toute la matinée et l'après-midi.
Ouais, et ça, c'est pour devenir ensuite un as de l'informatique.
C'est les bases.
Et envoyez-nous les photos de vos sudoku. Peut-être que vous en faites déjà des beaucoup plus difficiles, d'ailleurs, parce qu'on peut faire des sudoku avec presque rien, hein, sur le papier, mais aussi avec des objets. On peut aussi les tracer par terre avec un bâton, hein, d'ailleurs.
C'est ça. Moi, j'ai des jolies photos de mes élèves qui ont fait ça dans la cour d'école. Ils ont dessiné avec les créer des sudoku à 100 cases.
Waouh, 100
ça,
cases.
C'est beaucoup. Hein. Ils ont eu besoin de 10 fois 10 objets à mettre. Mmh. Et ils ont travaillé longtemps.
Envoyez-nous des photos, 33 1 84 22 71 71. Ça, c'est pas une suite logique, c'est le compte WhatsApp de l'émission. 33 1 84 22 71 71. Allez, n'oubliez pas ce numéro. Et ce week-end, si vous avez réalisé de beaux sudoku, vous nous envoyez des photos avec des commentaires aussi. Dites-nous si ça a été difficile ou pas. On revient aux suites logiques du début, même si le sudoku, c'est aussi de la suite logique pour les 8-10 ans, c'est ça, Sarah?
Alors, on va faire une suite un peu plus compliquée. Vous avez aussi maintenant besoin de votre sac ou de votre boîte avec les éléments dedans, ou bien de la feuille et du crayon pour les dessiner fur et à mesure que je vous explique. Vous êtes prêts?
On est prêts.
Je prends mon sac et je sors deux cailloux de mon sac. Donc, vous prenez deux éléments et posez-les sur la table. Vous dessinez les deux cailloux.
Oui, c'est bon.
Oh, c'est fait. Hein. J'enchaîne avec cinq noisettes que je pose à côté de mes deux cailloux. Prenez aussi cinq éléments, mais une autre sorte d'éléments de votre sac et posez-les à côté de vos premiers éléments.
Ça y est, je pense que
ensuite,
c'est bon.
Je sors une herbe de mon sac. Je pose l'herbe à côté de mes noisettes. À vous maintenant de sortir un autre élément et le poser à côté de votre deuxième.
Donc là, sur la table, vous avez 2, 5, 1, avec
c'est
des
ça,
objets différents.
Exactement.
Et la suite alors?
La suite. Mais maintenant, je ressors des cailloux. Je mets 4 cailloux à côté de mon herbe. Vous aussi, prenez 4 de votre premier élément que vous avez mis.
Donc 2, 5, 1, et on recommence avec les cailloux. 4.
4. Vous y êtes?
Oui.
Alors, je continue avec le deuxième élément, les noisettes. Je mets 4 noisettes à côté de mes cailloux. À vous de mettre aussi 4 éléments de votre deuxième sorte d'objet sur la table.
Cailloux, noisettes, moi j'ai l'impression que ensuite ça va encore être des herbes.
C'est exactement ça. Je mets deux herbes à côté de mes noisettes. À vous de mettre deux de votre troisième élément choisi. Ça vous fait 2, 5, 1, 4, 4, 2 jusque-là.
Et ensuite?
Et on continue ensemble, vu que cette suite, elle est vraiment complexe. Maintenant, de nouveaux cailloux, je mets 6 cailloux. À vous de mettre 6 de votre premier élément. C'est bon?
Oui, je crois que c'est bon.
Alors, les noisettes, à votre deuxième élément, je mets 3 noisettes. Sortez aussi 3 de votre deuxième élément choisi.
Voilà, donc on est à nouveau dans cailloux, noisettes.
Et puis, bien sûr, ça continue avec les herbes.
Les herbes.
Je mets 4 herbes. À vous aussi de sortir 4 de votre troisième élément choisi. Est-ce que vous avez encore de la place sur votre table? Chez moi, ça devient serré.
Alors, comment ça pourrait continuer, Sarah?
Ça, c'est la question. Oui, ça continue avec les cailloux. Je crois que vous avez deviné, mais combien? Regardez vos cailloux, ou votre premier élément. Hein. On a mis 2, 4, 6 et le prochain chiffre.
2, 4, 6, ça c'était pour les cailloux.
Oui.
Donc, on retrouve une suite à plus 2, en tout cas pour les cailloux.
C'est
donc,
ça, exactement.
On en mettrait 8, peut-être.
C'est ça, exactement. Donc, vous pouvez mettre 8 de votre premier élément. Pour la suite, vous avez deviné la formule magique. Pour les cailloux, c'est donc
plus 2.
Toujours plus 2.
Et alors ensuite, il faut trouver une formule pour l'autre, ce que vous avez mis en noisette, c'est ça?
C'est ça. Donc, on continue bien sûr avec les noisettes. Regardez ce que vous avez mis. Moi, j'ai mis 5, 4, 3. Donc, on continue avec...
J'ai l'impression qu'on descend là. Hein. Donc, on serait
à
2.
C'est exactement ça, ouais.
Donc, à chaque fois, finalement, on enlève moins 1.
C'est ça, formule magique moins 1. Mm-hmm. Donc, après 3, ça nous donne 2 noisettes. Donc, vous pouvez mettre 2 de votre deuxième élément que vous avez choisi. Maintenant, les herbes, bien sûr. Hein. Regardez vos herbes. votre troisième élément. Et moi, j'ai 1, 2, 4. Quelle est la formule magique et avec quel chiffre faut-il continuer ?
1, 2, 4. Là, ça se complique un tout petit peu.
Ça se complique un peu. Hein. Ce n'est pas en plus, ce n'est pas en moins. Mais je crois que vous avez trouvé, c'est en fois. Hein. C'est toujours fois 2. Donc, il faut mettre 8 herbes ou 8 de votre troisième élément choisi.
Et là, on a toutes les suites logiques, alors.
C'est ça. On a en plus, on a en moins, on a en fois. On n'a pas fait une division, mais ça aurait été possible aussi. Et je vous prie, après l'émission, vous pouvez noter cette suite et les formules magiques aussi sur votre feuille et puis essayer de la continuer presque en infini. Mmh. Donc là, on a mis les objets, mais on ne peut pas mettre 1000 objets sur la table. Donc, si on veut travailler avec des très grands chiffres, on fait ça sur le papier, on fait une abstraction. Hein.
Voilà, exactement. Je crois qu'on a bien compris le principe et vous pouvez réécouter évidemment l'émission en podcast ou sur le site RFI.fr à la page des 7 milliards de voisins. Refaire des suites logiques, refaire des sudoku, on peut les complexifier les sudoku aussi pour les plus grands. Vous nous avez annoncé, Sarah, parce que l'heure tourne finalement, qu'on allait parler des solides pour
ça,
les 8-10 ans.
Pour les 8-10 ans, ouais. Justement, le mercredi, vous avez déjà mesuré des carrés, ouais. Des rectangles, des triangles.
Alors, on a mesuré le tour, c'est-à-dire la circonférence, oui. Et on a mesuré aussi l'intérieur des rectangles et des carrés, c'est-à-dire la surface ou l'air.
Ouais, le périmètre et l'air qu'on a mesuré. Et ça, c'était tout en 2D, hein. Ça, c'était plat, ce que vous avez mesuré. Et aujourd'hui, j'aimerais bien qu'après l'émission, que vous réalisez une de ces formes géométriques en 3D.
Trois dimensions.
Et pour ça aussi, utilisez le matériel que vous trouvez autour de vous pour créer. Hein. Un monsieur nous a raconté hier, ils ont créé en bambou des solides. Donc ça, c'est une possibilité si vous avez beaucoup de bambou chez vous.
Oui, vous les attachez avec des ficelles hein, aux angles. Et puis, vous pouvez faire un cube, vous pouvez faire un rectangle. Vous pouvez... Donc, du coup, le cube, c'est le carré qui devient un cube ou,
Donc, oui, bah alors pour le carré, hein, j'aimerais bien que vous me créez un mètre carré. Hein. Donc là, il faut mesurer ceux qui ont toujours leur ficelle ou leur bâton mètre qu'on a créé une fois. Vous pouvez l'utiliser ou sinon un ruban métrique pour mesurer un mètre carré. Un mètre cube.
Oui, un mètre cube plutôt.
Un mètre, un carré, on fait un mètre cube.
C'est ça. Le mètre carré, c'est pour la surface, pour
c'est
un
ça.
Carré qui est plat. Et puis ensuite, quand ça devient un cube, ça devient un mètre cube. Donc ça, vous pouvez le faire avec vos bambous ou des bâtons ou des, ou des allumettes, hein, d'ailleurs.
On fait ça avec les bâtons, on les plante dans la terre. Les enfants, ils font une construction. Puis après, ils essayent de mettre le plus d'enfants possible dans le mètre cube. Combien d'enfants ont de la place dans un mètre cube.
Et vous pouvez tout simplement construire une maison, une case, hein, et ça va être probablement un rectangle ou un cube, hein.
Oui, tout à fait.
Ça, à c'est moins possible. Que vous n'habitiez comme les Égyptiens dans une pyramide.
Ah, ça aussi, hein. Voilà, mais d'un carré, on peut mettre un cube. D'un rectangle, on peut faire, ça s'appelle un pavé, hein. Ça, c'est presque comme un cube, mais en forme de rectangle, avec des côtés qui n'ont pas toutes la même longueur. Et d'un triangle, voilà, vous pouvez faire une pyramide égyptienne.
Et alors, bien sûr, vous nous envoyez des photos de vos constructions, qu'elles soient toutes petites, un petit peu plus grandes, au 33 1 84 22 71 71. Sarah, vous proposez aussi qu'on fasse des dimensions reproduites plus petites.
C'est ça. Donc, pour ceux, pour vous, ça c'est encore trop facile. Essayez de reproduire la même forme en 3D deux fois plus petite. Par exemple, j'ai construit mon mètre cube, il a une longueur de 1 mètre. Dans mon modèle deux fois plus petit, chaque longueur fait 50 cm. Ça, c'est le demi du mètre. Ou si je fais peut-être mon bac à fleurs sur mon balcon, qui est la forme rectangle, ça me fait un pavé, il a 10 cm de hauteur. Donc, dans mon modèle réduit, je fais 5 cm de hauteur. Je fais tout... la moitié.
Donc, moi, j'ai compris qu'on prend chaque dimension de chaque côté, qu'on divise par deux pour avoir une échelle deux fois plus petite.
C'est ça.
Merci beaucoup, Sarah. On a passé 3 jours super avec vous. Vous allez revenir début mai pour faire l'école à la radio.
Dans deux semaines, c'est
ouais,
ça, oui.
Vous avez déjà une petite idée du programme, de ce que vous nous réservez ou pas encore?
Ah oui, je suis en train de planifier. Ça va être encore beaucoup d'autres choses en lien avec toutes les matières scolaires. La musique, les arts, les mathématiques, les langues, aussi l'histoire et la géographie, et un peu de sport.
Formidable. Alors ça va nous faire plaisir, surtout que ceux qui sont semi-confinés, peut-être que difficile de faire à l'heure actuelle du sport, mais vous allez trouver des idées pour faire ça dans sa cour, dans sa maison, dans sa petite rue. Vous revenez donc début mai, et d'ici là, surtout, vous prenez soin de vous, et vous revenez avec toutes vos idées et de connaissances aussi pour les enfants. Merci beaucoup, très bonne journée à vous en Franche-Comté.
Très bonne journée à vous et bonne expérimentation.
Tout près de la frontière suisse. Et puis, bien sûr, les enfants, vous réécoutez les émissions, vous gardez vos grilles de sudoku pour continuer les activités. Dans quelques instants, on va se reposer. L'histoire du jour, mais avec une dédicace spéciale pour Lucas, qui trouve toujours les histoires trop courtes. Avant cela, ça sera week-end sans Wi-Fi par tété. Enfin, ça, non, on a assez d'ennuis comme ça. Il nous faut absolument du Wi-Fi pour nous, pour l'école à la radio.
J'ai 152 amis sur le réseau. J'y déroule l'envers de ma vie sous un pseudo. Plat du jour, deuil, autoportrait, vue sur cours, orgueil et regret. Je ne me connais qu'un interdit, un triste répit. Le week-end sans wifi, na 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 na. Week-end sans wifi, sans ma clique, mes cœurs en couleur, les profils pour dire la douleur d'un supplice qui n'expire jamais sous le cyprès. D'un week-end sans wifi, de bien là j'ai été admis incognito. Dans un centre addictologique d'un genre nouveau. Depuis je ne me reconnais plus. Me voici enfin revenu. Ce délice qui n'agit qu'après dans le secret. Dans week-end sans wifi, na 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 na. Week-end sans wifi, j'ai le cœur qui part en spirale. Mon docteur m'a dit c'est viral. Je n'aime pas ce côté mon dièse, mais ça m'apaise. Week-end sans wifi, la main.
C'est été, week-end sans wifi, l'école à la radio, chez 7 milliards de voisins. On est en direct sur RFI, on m'envoie des messages via WhatsApp. Un internaute nous dit « J'aurais jamais su que je comprendrais aussi bien le cours sur les suites logiques qu'on faisait en première et en terminale. Bah, » C'est vrai que les suites logiques, on commence en primaire et après ça s'arrête jamais. Alors pour ceux qui n'ont pas compris, c'est le début de la galère. Merci pour ce message, en tout cas, qui est adressé évidemment à Sarah Vauquier, qui continue de nous écouter. Et puis aussi un autre message, Ismaël, qui est à Niamey, au Niger. Je suis étudiant, j'écoute l'école à la radio. Je tiens à remercier votre équipe, surtout Héloïse, pour ses contes et sa tonalité et sa manière de faire. Et bien justement, on va l'écouter, Héloïse Auria. Elle raconte l'histoire du jour, Les deux bosses, écrite par Jean-Jacques Dida. Édité chez Didier Jeunesse.
Je m'appelle Kenza. Je vais inventer une histoire.
Il était une fois.
Les deux bosses. Un conte écrit par Jean-Jacques F. Dida. Une pauvre jeune fille portait une bosse.
On l'appelait Kumba Kuge, Kumba la bossue. Elle était gaie et douce pourtant. Même quand elle allait buste nue et que ses amis se moquaient d'elle, lui demandant le bébé qu'elle portait sur son dos, elle répondait en souriant. « Ça m'étonnerait qu'il vienne avec toi. Il ne veut même pas descendre pour téter. » Ainsi, tandis que les autres jeunes filles prenaient époux, Kumba restait demoiselle et passait son temps à travailler pour aider. Elle lavait le linge, vannait le grain, pilait le mil. Un jour de grosse chaleur où elle avait apporté les repas au champ, elle s'est approchée d'un tamarinier pour se reposer. On dit que le feuillage de cet arbre est si épais et si frais que son ombrage est un lieu de rendez-vous choisi pour les filles génies. Et c'est bien sur elle que Kumba est tombée en écartant quelques branches basses. Elles étaient là, trépidantes, à danser la folle farandole du Sandiaï. Se lançant l'une après l'autre, au milieu du cercle, elles chantaient en claquant des mains.
Talata way, talata, 1, 2, 3, 1, 2, 3, talata way, way, talata, 1 et 2 font 3.
10 avaient tourné en faisant voler leurs pagnes et leurs boubous. 10 avaient décliné le rythme de bout en bout. Alors Kumba est venu près d'une aînée aux cheveux blancs comme du coton et lui a dit « Êtes-vous en paix, grand-mère ?»«
En paix seulement, ma fille. »
Puis, tournant un peu son dos, Kumba a ajouté « Voulez-vous bien me prendre le petit, une minute, que j'aille danser à mon tour ?» La génia a pris la bosse et Kumba s'est aussitôt enfui. Quand elle est arrivée au village, chacun en est resté sidéré. Elle avait à présent la nuque fine et longue comme cou de gazelle. Or, il y avait une autre jeune fille au village qui portait une bosse. On l'appelait Karikuge. Ayant entendu Kumba raconter son histoire, elle a couru au tamarinier. Les filles génies étaient encore là, à danser.
Talata way, talata, 1, 2, 3, 1, 2, 3, talata way, way, talata, 1 et 2 font 3.
Kari s'est penchée vers l'aînée aux cheveux blancs et lui a dit
« Voulez-vous bien me prendre le petit une minute, que j'aille danser à mon tour ?»«
Oh non alors !» a répondu la génia. « J'ai gardé l'autre déjà, et personne n'est venu le réclamer. Oh, fille d'Ève, vous vous faites trop désirer pour vos bébés. Tiens, reprends donc celui-là aussi. »
La génia a alors flanqué la bosse de Kumba à Kari, qui s'est ainsi retrouvée affligée de l'une sur le dos et de l'autre sur le ventre. La malheureuse en a été si désespérée qu'elle a aussitôt couru à la mer pour s'y jeter. Mais l'océan, ému par cette triste fin, n'a pas voulu la recouvrir entièrement des vagues de l'oubli. Il a laissé affleurer à la surface de ses eaux les deux bosses de Karikuge. Ce sont les collines jumelles d'à peine 100 pieds de haut qui culminent aujourd'hui à la pointe du Cap-Vert, au Sénégal. Et pour honorer cette pauvrette qui n'a jamais connu le bonheur de faire naître un enfant, on appelle ces deux bosses, que les derniers rayons du soleil embrasent le soir sur la terre africaine, les mamelles.
Profite pour faire un petit coucou à nos auditeurs qui sont aux mamelles à Dakar. Et bien sûr, vous pouvez réagir au 33 1 84 22 71 71 à la mise en onde de ce conte Romain Dubrac avec la voix d'Héloïse Auria, les deux bosses, Jean-Jacques Vdida, édité chez Didier Jeunesse.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Et comme chaque semaine, bien sûr, on essaye au maximum de donner des conseils pour les parents qui font travailler leurs enfants. Nous sommes en ligne avec Joël Alarcon. Bonjour Joël.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes psychopédagogue, vous aidez les parents, les enseignants aussi d'ailleurs, à mieux comprendre les processus d'apprentissage chez les enfants. Et aujourd'hui, vous nous parlez du rôle des émotions quand on apprend.
Oui, tout à fait, le rôle des émotions. Bah alors, les émotions, quand on parle d'émotions, de quoi parle-t-on?
Oui.
Déjà,
ouais.
Parce qu'on a les émotions, on a les sentiments. Donc, un petit point déjà pour savoir de quoi on parle. L'émotion, c'est une réaction automatique, brusque, surprenante. Elle est de courte durée, on ne la contrôle pas. Et puis, parfois, notre corps trahit l'émotion. On rougit, on transpire, on pleure, on a le cœur qui bat plus vite. Alors, on a des émotions que l'on dit primaires. Ce sont les émotions de base qui sont la joie, la tristesse, la colère, la peur et une à laquelle on ne pense pas souvent, le dégoût.
Oui, par exemple, avec une mauvaise odeur ou quelque chose qu'on mange qu'on n'aime pas.
Tout à fait. C'est absolument incontrôlable. On peut avoir envie de vomir, par exemple. C'est incontrôlable. Et dans cette grande famille des ressentis, donc on a l'émotion, mais on a aussi les sentiments.
Mmh.
Alors les sentiments sont plus élaborés, ils colorent l'humeur, nous éprouvons plus que, plus que dans l'émotion. Alors par exemple, il y a l'affection, la compassion.
Mais alors quel rapport entre tout ça et l'apprentissage? A priori, quand l'enfant se met au travail, à sa table, justement, on est censé mettre de côté les émotions.
Et oui, mais comme je vous le disais, elles sont incontrôlables. Donc, le rôle de l'émotion dans l'apprentissage est vraiment très, très important. Et c'est important que les parents le mesurent. Parce que l'émotion crée comme un court-circuit dans le cerveau à cause d'une hormone qui s'appelle le cortisol et qui coupe vraiment notre accès à notre raisonnement si on est vraiment en proie à une émotion très forte, que ce soit une émotion de peur, de stress, de colère ou de joie. Et on a remarqué d'ailleurs, grâce à une recherche qui a été menée aux Pays-Bas en 2008, grâce à deux groupes de petits rats, on a pris un groupe de petits rats, on les a juste nourris. Et on en a pris un autre qu'on a nourri et qu'on a cajolé, materné, caressé. Et on s'est rendu compte que les rats du premier groupe, qui n'ont pas été cajolés, n'ont pas beaucoup créé de connexions neuronales.
Mmh. Alors que pourtant, ils étaient bien nourris, pourtant.
Ils étaient bien nourris. Par contre, les petits rats bien cajolés, câlinés, avaient des connexions neuronales beaucoup plus élaborées, une arborescence très, très développée.
Mmh.
Voilà, donc ça montre vraiment l'impact du plaisir et de l'émotion sur les capacités cognitives.
Mmh.
Et de la même façon, quand un enfant est en colère parce qu'il n'a pas envie de travailler ou invente tout un tas de trucs à faire plutôt que de se mettre au travail, ou bien au contraire a une attitude agressive, et on se rend compte qu'en fait tout ça ce sont des réactions qui sont la conséquence de la peur, qui est une émotion.
C'est-à-dire la peur, par exemple, d'échouer, de ne pas comprendre, de ne pas réussir à faire l'exercice, de subir peut-être les foudres de son maître, de son professeur, de ses parents.
Tout à fait. Vraiment, on est là-dedans. C'est-à-dire, et la peur, ça peut même être la peur de réussir. Hein. Il y a aussi des enfants qui ne savent pas gérer cette peur-là, donc la peur de l'échec, évidemment. Puis la peur de ce moment qui est très inconfortable, ce moment où on comprend qu'on ne comprend pas.
Oui.
Vous voyez.
Il faut pas sous-estimer cette peur qui peut vraiment bloquer le cerveau, c'est ça finalement?
Complètement. Donc quand on a peur, on dégage une hormone qui s'appelle le cortisol qui va vraiment créer un réel court-circuit. Donc quand l'enfant est vraiment dans l'enfant, l'ado, l'étudiant, enfin ça marche vraiment pour outiller les parents, voilà, on est sur les enfants. Quand vraiment l'enfant est dans une réaction de fuite, d'agressivité, voilà, il faut traduire que c'est de la peur. Il vaut mieux calmer le jeu, passer à autre chose et revenir dessus un peu plus tard.
Alors j'ai remarqué aussi, on a souvent tendance à dire « Allez, maintenant, on passe à un exercice difficile. Tu vas voir, ça va être difficile. » Plutôt que de dire simplement « Écoute bien, concentre-toi. » Et il y a eu des études, je crois, qui ont été menées entre deux groupes, des jeunes à qui on disait « Vous allez faire un exercice très difficile » et d'autres à qui on donnait le même exercice, mais on ne leur disait pas que c'était très difficile, on leur disait au contraire que c'était facile. Et ceux à qui on avait dit que c'était assez facile, finalement, réussissaient beaucoup mieux le même exercice que ceux à qui on avait dit que c'était difficile. Ça confronte un peu ce que vous nous disiez, finalement, Joëlle Alarcon.
Bien sûr, on est dans de la programmation. On va se mettre dans un état émotionnel de peur, de stress. Puis on va peut-être anticiper un échec en entendant que c'est difficile. Alors qu'effectivement, alors le risque de dire que c'est facile, c'est de, si jamais l'enfant n'y arrive pas, de se dire « Oh là là, c'était facile et en plus, je ne suis pas arrivée ». Donc, bon, en termes d'estime de soi, ça peut ne pas être très positif. Par contre, de dire que c'est difficile, de prévenir, qui peut être un très bon, une très bonne intention, mais pas forcément... Effectivement.
Alors, comment justement les parents maintenant doivent, maintenant que vous nous avez expliqué tout ça, le rôle des émotions, la façon dont notre cerveau se programme pour apprendre ou ne pas apprendre, comment les parents doivent en tenir compte avec les enfants? Donnez-nous quelques conseils.
Eh bien, c'est se dire que l'émotion, elle est là, on ne peut pas la gérer, on ne peut pas la contrôler, et elle n'est pas là pour rien quand même. Elle vient nous dire des choses de nous. Elle vient nous parler de nos besoins. Elle vient nous parler de nos besoins fondamentaux. Alors, l'humain a des besoins fondamentaux communs, qui sont le besoin d'être reconnu pour ce que l'on est, d'être aimé et d'être en sécurité. Ça, ce sont les trois besoins communs. Alors après, on a différentes façons chacun de les nourrir. Mais, à titre individuel, chaque enfant, chaque parent a aussi des besoins. Donc, c'est vraiment d'arriver à se dire, après une colère, par exemple, ben, quel était le besoin chez toi qui a été complètement frustré? Et à l'inverse, quand on a une grande joie, de se dire à ce moment-là, bah, qu'est-ce qui chez moi est nourri? Quel besoin fondamental est nourri et fait qu'aujourd'hui, là, maintenant, je reçois une grande joie? Parce que du coup, ça peut nous mettre sur la piste et on peut se rendre compte en tant que parent que notre enfant, en fait, eh ben, il est beaucoup plus heureux quand il apprend à plusieurs ou quand il apprend en bougeant ou quand il apprend en musique, par exemple. Donc, en faisant toujours un petit débriefing après des moments comme ça d'émotions fortes, on peut amener son enfant et soi-même, évidemment, à se dire, voilà, on va identifier les besoins que viennent nous révéler nos émotions. Parce que ce sont juste des messagers, les émotions.
Vous parlez de débriefing après les émotions, Joëlle. Ça veut dire que ce n'est pas sous le coup de l'émotion qu'on va demander à l'enfant ce qu'il ressent. Parce que parfois, il est en effet débordé par ses émotions. Il faut y revenir un peu plus tard, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Et même nous, hein, en tant qu'adultes, quand on est très, très en colère, il n'y a rien de plus agaçant que quelqu'un qui va essayer de nous raisonner. On est en colère, on est en colère, voilà. On est dans l'émotion, on n'est pas du tout dans la raison. Et encore que nous, en tant qu'adultes, on a une capacité à raisonner parce que notre cerveau est fini. Mais jusqu'à 25 ans, la partie qui raisonne du cerveau, qui prend du recul, n'est pas terminée.
Jusqu'à 25 ans ?
Jusqu'à 25 ans.
Bon, bah ça va en rassurer pas mal.
Donc, c'est très difficile de demander à un enfant de se raisonner, de prendre du recul, alors que cette partie qui est le cortex préfrontal n'est pas encore terminée.
Merci.
Par contre, la partie émotionnelle est complètement terminée. Alors.
Oui. Merci beaucoup, Joëlle Alarcon. On peut retrouver beaucoup de choses de ce que vous écrivez sur votre page Facebook qui s'appelle le Jardin Pédagogique Montpellier. Bien sûr, le lien est noté sur la page des 7 milliards de voisins sur le site RFI.fr et vous retrouvez ça aussi sur l'appli RFI Pure Radio. Et bien sûr, on réécoute vos chroniques et tout le contenu de nos émissions. Très, très bonne fin de semaine à vous. Joëlle Alarcon, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous.
Au revoir, Emmanuel.
Joëlle, donc la semaine prochaine, et les voisins et les voisines, évidemment, on attend vos réactions, vos suggestions. On se retrouve tous ensemble lundi pour l'école à la radio. Pour les plus jeunes qui apprennent à écrire, il y aura des exercices pour bien comprendre comment se forment les lettres. Et en orthographe, vous apprendrez des choses sur la lettre Q qui a un petit frère.